auditrices et auditeurs de Radio Judaïka. Bienvenue dans l'émission Kol Hillel, proposée par la communauté israélite libérale de Belgique, synagogue Beit Hillel. Gaëlle, bonjour.
Bonjour Jacqueline, bonjour chers auditeurs, chères auditrices.
Dans notre précédente émission, nous nous sommes entretenus avec le rabbin Marc Neger des rites que propose le judaïsme libéral à l'occasion de la naissance des enfants, quel que soit leur sexe. Aujourd'hui, nous allons aborder en sa compagnie un sujet difficile. La fin de vie provoquée, à propos de laquelle le rabbin Neger a publié un article dans le numéro du mois de février du Shofar. Je rappelle à nos auditeurs que le Shofar est la revue mensuelle éditée par la communauté israélite libérale de Belgique, dont on peut se procurer un exemplaire en téléphonant au secrétariat de la synagogue Beit Hillel au 02 332 25 28. D'ailleurs, tous les renseignements à ce sujet se trouvent également sur le site de la communauté israélite libérale de Belgique, sur www.bethillel.org. Rabbi Neger, bonjour.
Bonjour Jacqueline, bonjour Gaëlle, chers auditeurs, chères auditrices, bonjour.
Rabbi Neger, avant d'entamer avec vous cette si difficile problématique de la fin de vie provoquée, je voudrais revenir quelques instants sur la législation belge en la matière. Étant entendu que l'objet de notre conversation de ce jour ne sera pas de dénier à la loi belge son applicabilité à tous les citoyens de notre pays, en ce compris bien évidemment aux personnes se revendiquant du judaïsme, la loi du pays est la loi, mais bien de soumettre quelques instants ensemble notre réflexion sur la fin de vie provoquée, de la soumettre à votre expertise en matière d'éthique juive. Ce que je vais dire va être un peu technique peut-être, mais je crois qu'il est important pour avoir une bonne compréhension du sujet de vous rappeler à vous, chers amis auditeurs, le contenu de cette loi belge sur l'euthanasie. En Belgique, donc, une première loi concernant notre sujet fut promulguée en 2002. Cette loi du 28 mai 2002, dite « loi relative à l'euthanasie », consacra la dépénalisation de l'acte pratiqué par le médecin qui mettait intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci, pour autant que trois conditions soient respectées. La première condition est que la personne devait être majeure, capable et consciente au moment de sa demande. La deuxième condition imposée par la loi, la demande d'euthanasie devait être formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et bien entendu ne pas résulter d'une pression extérieure. Enfin, la troisième condition légale était que la personne devait être dans une situation médicale sans issue et faire état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne pouvait être apaisée et qui résultait d'une infection accidentelle ou pathologique grave et incurable. Alors, ces trois conditions imposées par la loi étaient assorties d'une série de précautions auxquelles le médecin était également légalement tenu. Nous n'énumérons pas ici l'intégralité de ces précautions, c'est trop technique, mais je voudrais tout de même citer ici l'obligation qu'avait le médecin d'informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, d'évoquer avec lui les traitements thérapeutiques encore envisageables, ainsi que les possibilités qu'offraient les soins palliatifs et leurs conséquences. La loi belge précisait d'ailleurs à cet égard que le médecin devait arriver avec le patient à la conviction qu'il n'y avait aucune autre solution raisonnable dans sa situation. Alors, cette loi de 2002 permettait par ailleurs également d'établir une demande anticipée, qu'un médecin pratique une euthanasie pour le cas où la personne ne pourrait plus exprimer sa volonté si ce médecin constatait que la personne était inconsciente, atteinte d'une infection accidentelle ou d'une pathologie grave et incurable et que cette situation était irréversible selon l'état actuel de la science. L'euthanasie sur demande anticipée de la loi de 2002 était elle aussi assortie d'une série de précautions à respecter par le médecin et sur lesquelles je ne reviendrai pas à l'antenne. En février dernier, cette loi relative à l'euthanasie a été élargie aux enfants mineurs sans limite d'âge, mais les conditions légales imposées aux médecins pourrait être autorisé à poser un tel acte d'euthanasie, sans plus strict encore, dans la mesure où il ne peut intervenir que si l'enfant mineur d'âge se trouve dans une situation médicale sans issue, entraînant le décès à brève échéance, et uniquement qu'en cas de souffrance physique constante et insupportable. En clair, la souffrance psychique ne peut, quant à elle, être retenue, comme c'est le cas pour les demandes d'euthanasie exprimées par les adultes. Par ailleurs, l'enfant doit être reconnu capable d'apprécier toutes les conséquences par un psychiatre ou un psychologue indépendant, en plus de l'accord de l'équipe médicale et des deux parents. Donc, voilà, Rabbi Neger, revenons-en donc au judaïsme. Et à titre préliminaire, j'ai envie de vous poser une question en apparence fort simple. Face à une législation belge sur l'euthanasie très moderne et qui prend avec d'infinies précautions en considération la demande d'euthanasie pour soi-même et uniquement pour soi-même, comment le judaïsme chez nous, en Belgique, peut-il encore poser de bonnes questions sur le plan éthique dès lors qu'il puise l'essentiel de sa réflexion dans des textes traditionnels qui sont rédigés, on peut le dire tout de même, à des périodes fort éloignées de la médecine moderne?
Je crois que c'est le cœur de la question. Je n'ai pas envie de dire, parce que ce n'est pas le cas, que le judaïsme aurait changé d'avis par rapport à ces questions. Je pense surtout que c'est la médecine moderne qui nous apporte des questions qui sont nouvelles et auxquelles nos ancêtres n'ont pas eu à faire face. De la même manière, je pense qu'il serait un peu simpliste de dire que toutes les religions traditionnelles ont une même réponse monolithique et négative concernant les possibilités d'envisager une fin de vie provoquée. Je préfère d'ailleurs ce mot-là plutôt qu'euthanasie, parce qu'on peut faire une différence subtile mais quand même pratiquement importante entre le suicide assisté et l'euthanasie. Les questions que pose la médecine aujourd'hui, c'est en particulier non pas la question de la vie, mais la question de ce qu'est la mort, ou plutôt de quel moment définit la mort. Par exemple, nos textes traditionnels considèrent la mort comme la fin de la respiration. Ce qu'on retrouve même dans le mot qui décrit l'âme, qui est le nefesh, qui est au départ le souffle de vie. Et même dans le monde orthodoxe, se pose bien la question de savoir si on ne doit pas redéfinir à quel moment intervient la mort pour se rapprocher d'une définition plus moderne qui est celle de la mort cérébrale, en particulier face à un autre problème qui est très important dans notre société par ses conséquences, y compris parce qu'il permet de mettre en œuvre pikuach nefesh, la possibilité de sauver une vie, qui est le don d'organes. Tant qu'on fonctionne avec une définition de la mort qui est l'arrêt de la respiration, on limite, voire on rend impossible la possibilité du don d'organes. Alors que si on accepte la définition de la mort cérébrale, alors il devient possible de faire un don d'organes. Et la redéfinition de ces questions, même tous les courants du judaïsme, des plus orthodoxes aux plus modernes, se la posent et travaillent avec ce type de questions. Donc on a un certain nombre de responsables sur le sujet.
Dans le dernier Shofar, le titre de l'article que vous signez sur la fin de vie provoquée est rédigé sous forme d'une question. Y a-t-il un temps pour choisir le repos? Alors, est-ce à dire qu'ainsi formulé sous forme d'une interrogation, le rabbin que vous êtes serait enclin à considérer qu'il n'y a pas nécessairement de vérité absolue, de position péremptoire, tranchée à adopter face à cette problématique?
C'est très difficile d'envisager non pas une loi civile qui peut définir des critères objectifs qui vont permettre de déterminer si quelqu'un a le droit au suicide assisté ou à l'euthanasie. Il est beaucoup plus difficile de rédiger, de formuler halakhiquement quelque chose qui soit une vérité et qu'on puisse appliquer à tous les cas. Finalement, je suis même presque rassuré devant la difficulté du sujet qu'on soit dans cette impossibilité. D'une certaine manière, on a dans le judaïsme et dans la halakha un concept qui permet de parler un peu de ces situations qui sont toujours à la limite des choses, qui sont la différence entre les choses qui sont interdites, les hatrila, interdites a priori, interdites quand on demande si quelque chose est autorisé, non, c'est interdit, mais qui finalement ne sont pas punissable a posteriori, c'est-à-dire bédéavad, ben oui, c'est fait. et on fait avec. Et la personne qui a fait cet acte n'est pas coupable finalement. Elle est responsable de l'action qu'elle a faite, mais elle n'a pas de culpabilité particulière. Donc c'est tolérable a posteriori. En même temps, on peut facilement rentrer dans un sophisme qui est de dire que si, à ce moment-là, tous les actes de fin de vie provoqués seraient acceptables, bédéavad, et interdits, les hatrila, c'est une manière un peu hypocrite de dire c'est autorisé, les hatrila. Et je ne pense pas qu'on puisse rentrer dans ce genre de situation. De la même manière, on a quelque chose de similaire vis-à-vis du suicide, tel qu'il est exprimé traditionnellement. Les rabbins sont extrêmement hostiles, opposés au suicide. Et pourtant, il y a des cas où ils vont le laisser passer, ou en tout cas, ils vont rendre impossible de rencontrer un suicide qui soit déclaré comme un crime de suicide.
Oui, mais justement, ça veut dire qu'il existe dans le judaïsme des cas dans lesquels on a le droit de refuser de continuer à vivre.
C'est très très bien formulé comme ça. Il y a trois transgressions majeures pour lesquelles le judaïsme interdit ou autorise de se laisser massacrer, de se laisser tuer, c'est quand on est soumis quand on demande de tuer, de faire un meurtre, de commettre l'immoralité sexuelle, de participer à un assassinat, de participer à l'idolâtrie ou de participer à l'immoralité sexuelle. Et on trouve, de manière plus intéressante, parce que beaucoup de nos auditeurs sont familiers de ces trois interdictions, mais on trouve dans le Talmud une autre histoire qui nous raconte que 400 enfants prisonniers des Romains et destinés à la prostitution se sont eux-mêmes donné la mort en sautant dans les flots. Et là, c'est intéressant, au-delà du tragique qui est absolument insupportable, c'est qu'ils n'ont pas refusé et attendu qu'on les tue au nom de son refus, mais ils ont pris sur eux-mêmes la décision de se donner la mort. Et donc finalement, même s'il n'est pas possible d'en faire une valeur, d'en faire une norme, il y a peut-être des cas où il pourrait être autorisé de demander et d'agir pour sa propre mort.
C'est peut-être pas une bonne comparaison, mais Masada.
Masada est un petit peu différent.
Masada, on va peut-être juste expliquer 30 secondes pour les auditeurs qui ne le savent pas.
En 73, alors que la Judée est tombée aux mains des Romains, que le temple a été détruit, ce sont les derniers zélotes qui sont réfugiés à Masada et qui, voyant que les Romains ont construit une rampe d'accès à la forteresse imprenable qu'est Masada sur ce site qui est absolument hallucinant, tellement il est beau et terrifiant en même temps, décide, plutôt que de laisser les Romains les massacrer, de se donner la mort. Il faut bien voir qu'il y a une surprenante appréhension dans l'histoire qui dit qu'on a tiré au sort qui allait tuer tout le monde et on raconte que c'est un suicide collectif. En réalité, il n'y a qu'un seul suicide à Masada. C'est le dernier.
Ouais. Alors, Rabbi Neger, les textes talmudiques auxquels vous faites référence, notamment pour raconter l'histoire de ces 400 enfants qui étaient normalement destinés à la prostitution par les Romains, concernent le suicide admissible face à des circonstances externes insupportables. La perspective de devoir commettre soi-même un meurtre, être un enfant qui va être livré à la prostitution. Alors, ces textes évoquent-ils aussi les circonstances internes insupportables, sa propre maladie, en fait?
Il y a, dans le Talmud et dans quelques autres textes, l'idée qu'on ait envie d'échapper à sa propre situation devenue intolérable pour des raisons de maladie, ou pour même, il y a même un texte qui évoque une vieille femme qui demande à mourir tout simplement parce qu'elle n'a plus goût à la vie. Elle ne souffre de rien, mais elle n'a plus goût à la vie. C'est vrai que les réponses qui sont données par ces textes sont plus par la bande. Il n'y a pas de texte qui laisserait autoriser le fait de se donner la mort tout simplement parce qu'on en a assez de la vie.
C'est ça. Alors, Dans l'article que vous avez écrit dans le Shofar, vous parlez des Gossès et des Teraphins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Ah, ça c'est aussi un concept très intéressant. Gossès, c'est le mot qui désigne un mourant, un agonisant qui est sur son lit de mort et qui sait qu'il va mourir dans les jours qui viennent. Donc nous savons tous qu'il va mourir dans les jours qui viennent. Traditionnellement, on parle de 3 jours. Et les textes autour du Gossès nous expliquent qu'il doit être considéré comme une personne vivante à tout égard. Et donc finalement, on ne peut pas accélérer sa mort. Celui qu'il tuerait serait coupable de meurtre. On lui doit le respect dû à un vivant, même s'il est complètement inconscient ou délirant. On n'a pas le droit de commencer à préparer ses funérailles, on n'a pas le droit de faire rentrer le cercueil dans la maison pour gagner du temps, etc. etc. Et le Gossès a traditionnellement défini nos rites et nos habitudes autour d'une personne agonisante. Ceci étant, dans le Talmud, on trouve une autre catégorie de personnes qui est proche de la mort, qui est le Terefa. Terefa, il faut bien voir que c'est un mot qui est assez violent parce que littéralement c'est une charogne, c'est un mort-vivant. Et le mot, d'habitude on utilise le mot Terefa pour désigner une bête, une carcasse morte d'un animal qu'on trouve dans les champs. Donc finalement, là on appelle cette personne comme si elle est, on s'adresse à cette personne comme si elle était déjà morte. Et elle désigne avant tout quelqu'un qui a une lésion, un traumatisme dont on sait qu'il est fatal et qu'il va en mourir, je dirais à la base, rapidement. Ceci étant, en imaginant que la lésion soit interne, on pourrait penser que ça peut mettre jusqu'à 12 mois. Et alors là, on rentre dans quelque chose de très intéressant, parce que ça ressemble beaucoup plus à ce que la médecine nous présente aujourd'hui. Aujourd'hui, des gens qui étaient considérés comme gossesses auparavant, parce qu'ils mouraient de mort entre guillemets naturelle, eh bien aujourd'hui on sait de quelle pathologie ou de quelle lésion ils souffrent à l'intérieur. Et nos ancêtres étaient incapables de voir cette lésion, donc ils considéraient la personne comme un gossesse, c'est-à-dire mort tout simplement de sa belle mort, comme on peut dire, de la main du ciel. Et là finalement on s'aperçoit que son cancer a terminé de ronger tel ou tel organe, ou il a une lésion grave suite à une pathologie ou à un accident, et on ne peut pas soigner cette lésion. Et aujourd'hui, on peut la voir grâce à l'imagerie médicale, grâce à toutes les techniques que la médecine a développées. Et donc, finalement, beaucoup de gens qui étaient avant considérés comme gossesses devraient plutôt être considérés comme des Terefa. Alors peut-être qu'il faudrait repenser même la catégorie, parce que la catégorie de Terefa, elle est terrifiante. Un Terefa, c'est un mort vivant. Celui qui tue un Terefa, finalement, il n'est pas coupable de meurtre.
Attendez, pour qu'on comprenne bien, en fait, le Gossès, on dit qu'il va mourir dans les 3 jours, mais il faut le considérer comme un vivant, et on ne peut pas attenter à sa vie.
Absolument.
Mais si ma mémoire est bonne, vous me contredirez éventuellement, dans le Shulchan Aruch, il est question de l'absence d'acharnement thérapeutique. Si on y comprend bien les choses, le sel qu'on peut ou qu'on ne peut pas mettre sur la langue d'un Gossès, racontez-nous ça.
Ah oui, il y a très clairement dans le Shulchan Aruch, mais même dans des textes plus anciens comme le Sefer Hasidim, et même dans des textes juste post-talmudiques, on évoque le fait qu'on ne peut pas retenir la mort de quelqu'un. C'est-à-dire on n'a pas le droit d'accélérer sa mort, mais on n'a pas le droit de la ralentir non plus. On n'a pas le droit de l'empêcher. On n'a pas le droit de se livrer à un acharnement thérapeutique inutile. Et on parle de cette pratique de mettre du sel sur la langue, qui a été réputée retenir la vie. On n'a pas le droit de retenir artificiellement la vie. Donc finalement, on résout déjà une partie des problématiques de notre médecine moderne en disant qu'on a le droit de refuser l'acharnement thérapeutique.
Donc ça, c'est déjà prévu dans d'anciens textes talmudiques par rapport à la première catégorie de personnes
clairement
qui va mourir, qui sont les Gossès.
Mais on est quand même dans des zones qui sont beaucoup plus floues probablement que ce que le pensaient nos ancêtres. Je veux dire, par là, l'efficacité de notre médecine nous permet de créer des gens qui vont rester dans le coma sans aucune espérance de réveil. Je veux dire, il y a quelque temps, Ariel Sharon, Zichrono Livracha, sortait enfin de son coma, si je peux dire, pour pouvoir mourir. Était-il utile de le garder aussi longtemps ?
Alors, pour encore essayer de bien comprendre la notion de Terafa, c'est une personne dont dans la tradition, on ne sait pas quand il va mourir, mais il a atteint d'une lésion corporelle due à une blessure. Voilà. Alors, le cas du sida, par exemple. Il y a une évolution concernant la maladie du sida.
Exactement. Je crois que c'est le sida, dans les années 80, nous donne une bonne illustration de comment on pouvait considérer culturellement un TERFA. Dans les années 80, quand quelqu'un était porteur du VIH, socialement, je ne parle pas médicalement, c'est encore autre chose, on le considérait comme un mort-vivant. Et finalement, on était tous certains qu'il allait mourir rapidement. Heureusement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a changé, il y a des traitements, et l'espérance de vie d'un porteur du VIH peut devenir comparable à celle de quelqu'un de bien portant aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que la maladie ne reste pas fatale, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une mortalité plus élevée chez les personnes atteintes de VIH et du sida, mais la perception de ces gens-là comme... on aurait pu le faire de les voir comme des TERFA, des morts en puissance plus que des toujours vivants, a complètement changé. Et la médecine a changé cette perception et cette réalité de manière graduelle. Donc finalement, ce qu'on voit bien, c'est que tant l'idée de Gossès que l'idée de TERFA sont des tentatives des rabbins anciens pour répondre à ces questions et qu'aucune des deux ne convient réellement aujourd'hui.
Bien, Rabbi Neger, je vous propose une petite détente et je vous propose d'écouter une très jolie version, une très jolie interprétation des psaumes 103, versets 15 et 17.
Oh.
Rabbi Nager, laisser mourir par absence d'action était déjà autorisé dans nombre de textes décisionnaires et dans le Shulchan Aruch, on vient d'en parler. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus.
Oui, parce que se réfugier uniquement derrière l'absence d'action peut mener à des choses qu'on peut considérer comme hypocrites, voire ajouter de la souffrance plutôt que seulement la soulager. Je pense en particulier à un positionnement qui consisterait à arrêter l'alimentation ou l'hydratation du patient. Dans beaucoup de systèmes légaux occidentaux, l'arrêt de l'hydratation ou l'arrêt de l'alimentation est considéré comme un refus de soins et donc comme une manière indirecte de provoquer la mort, sans poser de problème en rentrant dans l'idée de suicide assisté ou d'euthanasie. Il y a de nombreux rabbins, de toutes tendances confondues d'ailleurs, qui sont assez gênés par ce choix spécifique de l'arrêt de l'hydratation de l'alimentation, parce qu'elle considère que ces deux choses, l'alimentation et l'hydratation, sont des besoins naturels, comme la respiration, et donc ne sont pas des soins, même si ils ont lieu de manière artificielle, aidée, si en termes pour l'infirmière qui le pratique, c'est un soin. Je veux dire, quand on met un tube ou qu'on pique, c'est un soin. Mais pour beaucoup de rabbins, ce n'est pas un soin dans le sens où il n'est pas là comme quelque chose d'exceptionnel qu'on va ajouter pour améliorer la condition ou essayer de soigner le patient. Et en plus, l'arrêt de l'hydratation entraîne une mort qui est plutôt douloureuse. Et l'arrêt de l'alimentation, même si ce n'est pas une mort douloureuse, est une mort qui peut prendre très longtemps. Donc finalement, si on rentre dans cette voie-là, on peut cultiver une hypocrisie par rapport à la vraie question qui est, y a-t-il vraiment une différence à partir du moment où on a pris la décision de faire ou de ne pas faire un acte, en sachant pertinemment que la conséquence de ce choix est la mort, y a-t-il vraiment une différence entre un acte que j'appellerais négatif, qui est d'arrêter quelque chose, et un acte positif, qui est de faire quelque chose? À partir du moment où c'est pris en connaissance de cause, et de la part du patient, et de la part des soignants.
Oui, la frontière éthique, à la limite, elle est dans l'autre sens, parce que dans le cas d'une action active, on empêche des souffrances, en fait. Donc, où est la frontière éthique? L'histoire de la mort de Rabbi Yehuda Hanassi est racontée sur le mode métaphorique. Vous pourriez peut-être nous raconter cette histoire-là.
On est exactement sur cette frontière ténue. Voilà. C'est assez passionnant. Dans le Talmud, dans le traité Ketubot, on nous raconte la mort de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi était particulièrement souffrant de calculs et d'autres pathologies. Oui. Et il souffrait énormément. Et on nous raconte que le jour de sa mort, on avait d'un côté les Talmidei Rachamim qui priaient pour qu'il ne meure pas, et de l'autre côté les anges qui réclamaient la mort de Rabbi Yehuda Hanassi pour que ce puits de savoir les rejoigne. En constatant la souffrance physique de Rabbi Yehuda Hanassi, la servante de Rabbi, qui est, je dirais, une confidente et un personnage assez fort en caractère, finalement est tellement touchée par sa souffrance qu'elle monte sur le toit, qu'elle prend un vase, le jette par terre. Les rabbins, perturbés par le son, s'arrêtent quelques instants de prier, et l'âme de Rabbi Yehuda Hanassi peut enfin s'échapper de son corps et lui trouver le repos. C'est très très difficile de savoir exactement quel est le sens de ce texte. On peut très bien se poser la question de savoir si l'acte de la servance est un acte positif ou un acte négatif. A-t-elle provoqué la mort de Rabbi Yehuda Hanassi, ou a-t-elle empêché qu'on le retienne en arrêtant les prières des rabbins? Je crois que la question reste ouverte, mais elle est quand même très intéressante, de la même manière qu'il est intéressant de voir que celui qui couple neugordien qu'est cette situation dont Rabbi Yehuda Hanassi n'arrive pas à sortir, au sens le plus strict du terme, est un tiers.
Alors, en regard de la législation belge qui autorise l'euthanasie uniquement lorsqu'elle est demandée pour soi-même, il est intéressant de noter que dans cette histoire de la mort de Rabbi Yehuda Hanassi que vous nous racontez, c'est la servante qui prend la décision de mettre un terme aux souffrances de son maître et non Rabbi Yehuda Hanassi lui-même.
C'est à la fois quelque chose de rassurant et quelque chose de terrifiant. D'une certaine manière, l'idée qu'un tiers puisse décider de la validité de la vie de quelqu'un est à la base quelque chose de profondément inacceptable et d'inenvisageable. Par contre, on peut se poser vraiment la question de qu'est-ce qui fait que quelqu'un n'a plus, et j'utilise le passé exprès, n'a plus une vie qui lui convienne, qui lui soit digne. Je ne crois pas qu'on puisse juger dans l'absolu une vie humaine, quelle qu'elle soit. Mais ce que voit la servante de Yehuda Hanassi, c'est que la personne qui était Yehuda Hanassi n'est plus là parmi eux. Pourquoi ? Parce que on nous raconte que il souffrait de diarrhées terribles et il allait régulièrement pendant son agonie aux toilettes. Et évidemment, à chaque fois qu'il allait aux toilettes, il devait enlever ses téphilines et remettre ses téphilines. Et c'est l'acte d'enlever et de remettre ses téphilines qui était pour lui une souffrance physique et une souffrance morale terrible. Et donc, finalement, dans cette chorégraphie, ce que constate la servante, c'est que Yehuda Hanassi n'est plus au niveau de sa propre dignité. Il n'est plus Rabbi Yehuda Hanassi parce qu'il ne peut plus vivre selon ses propres règles, selon les règles qui lui tiennent à cœur. Donc en fait, ce qu'on doit constater, c'est que la dignité humaine, quel que soit le point de départ, n'est plus là. Quelque chose a été enlevé à cette personne qui fait qu'elle ne se reconnaît plus elle-même. Alors évidemment, dans la vision des rabbins, Rabbi Yehuda Hanassi ne peut pas prendre la décision de se tuer lui-même, mais elle, en tant que confidente, sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus.
En fait, quelque part, on pourrait se poser la question de savoir si elle ne correspondrait pas au tiers de confiance dont il est question dans la loi belge, quand on parle du deuxième médecin intervenant dans la procédure mise en place par la législation, et auprès duquel le médecin traitant habituel doit prendre un avis.
Je pense que c'est important que la décision ne soit jamais prise seule, tant de la part du personnel qui sera engagé dans la procédure que de la part du patient. Il est important de protéger le patient contre la pression que son entourage ou que les circonstances peuvent mettre sur lui. Et il faut qu'il ait un confident, un tiers de confiance avec qui il puisse partager à la fois sa douleur, mais ses angoisses ou la pression afin qu'il ne soit pas, entre guillemets, poussé dehors.
Je suppose que parfois le rôle du rabbin là-dedans peut parfois...
Ça peut malheureusement ou heureusement être le rôle du rabbin, je pense, pour un juif attaché à ses valeurs.
Rabbi Neger, en guise de conclusion à notre entretien sur l'euthanasie et plus généralement sur la fin de vie provoquée, qu'avez-vous envie de partager comme piste de réflexion avec nos auditeurs ?
Comme je l'ai dit au début, je crois qu'on ne peut pas arriver à une décision qui soit claire dans un sens comme dans l'autre. Je crois qu'il faut, comme le fait en général le judaïsme libéral, respecter la responsabilité individuelle. Et c'est également pour ça que je pense que la formule suicide assisté, quelle que soit la forme pratique que ça peut prendre, plutôt que la formule euthanasie, est plus importante parce qu'elle montre bien que, au bout du compte, dans la mesure du possible, ce doit être le patient qui prend la décision et non pas un tiers. Le tiers n'est que la réflexion du patient, l'aide au patient à prendre sa décision ou à la refuser. Et il est important aussi que le débat soit ouvert et que les gens sachent, et en particulier les gens des familles, de gens qui souffrent aujourd'hui et qui sont en train de mourir ou qui seront dans cette, qui rencontreront cette situation dans les mois et les années qui viennent, aient un interlocuteur qui puisse leur donner une réponse juive et pas uniquement une réponse technique ou médicale. Et ça, ça me semble le plus important.
Rabbi Neger, merci infiniment à vous d'avoir accepté de venir vous entretenir avec nous à l'antenne de ce sujet si difficile. J'y reviendrai à la fin de cette émission dans l'agenda communautaire, mais j'aimerais d'ores et déjà signaler à nos auditrices et auditeurs que ce Shabbat 8 mars, dans le cadre des explorations midrashiques qui suivront le Fils du Matin, de 13h jusqu'à environ 15h, vous proposerez, Rabbi Neger, à toutes celles et à tous ceux qui auront la bonne idée de venir à la synagogue, l'étude de textes qui ont été évoqués à l'instant.
Absolument. Non seulement on étudiera et on lira ces textes en détail, mais quelques autres aussi qui viennent compléter notre réflexion.
Eh bien, je vous propose une très jolie version d'Adonai Roy avec le Chazan Hazi Schwartz et la Chazanite Sherry Kidron. Adonai Roy Lohersah Ino Adesh Yarbitzeni Alme Rabbi Neger vient de nous apporter un éclairage fort intéressant sur la difficile problématique de la fin de vie provoquée. Gaëlle, vous vous proposez aujourd'hui donc de nous dire quelques mots sur les pratiques qui entourent la survenance d'un décès.
En effet, mais avant de parler des pratiques qui entourent la mort, je voudrais faire une remarque. De ce qui se passe après la mort, la Torah ne dit rien, contrairement aux rabbins ou à la Kabbale qui sont très éloquents à ce sujet.
Qu'entendez-vous par de ce qui se passe après la mort, la Torah ne dit rien.
Mais pour faire court, je dirais que nous n'avons pas à nous préoccuper de ce qui se passera après notre mort. Nous verrons bien quand nous y serons. Et que ce que nous avons à faire, c'est nous concentrer sur ce qui se passe ici et maintenant. La Torah nous parle donc du comportement qui devrait être le nôtre ici-bas. Quant au judaïsme libéral, il affirme qu'il y a une survivance après la mort. Mais nous ne nous préoccupons pas de la forme de celle-ci. Et nous affirmons qu'on est comptable de nos actions.
C'est ça. Alors, Gaëlle, si vous voulez bien, venons-en donc aux pratiques proprement dites qui entourent un décès. Elles concernent, j'imagine, notamment les personnes qui sont en deuil.
C'est certain. Et vous faites bien de dire notamment, ou plus précisément, elles concernent l'ensemble des membres de la communauté et les personnes en deuil. Car le deuil n'est pas seulement l'affaire de la famille proche, il concerne chacun d'entre nous. Car la famille endeuillée ne devra jamais être laissée seule durant les jours qui suivent le décès. La consolation, le soutien aux endeuillés est un devoir, une mitzvah. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde plus individualisé que dans le passé. C'est différent pour chacun, ça dépend des familles et des gens, et certains ressentent parfois le besoin d'être seuls. Donc, on nous demande une attitude très subtile. On doit être à la fois présent et en même temps ne pas s'adresser à quelqu'un en deuil. On est là, près des personnes et prêt à les aider, mais on n'impose pas une relation sociale. Et ça me fait penser au nigunim, ces mélodies sans paroles où les notes remplacent ce que les mots ne peuvent exprimer. Et c'est un peu ce que nous devons faire dans notre présence près des endeuillés.
C'est ça. Alors, entre le décès et l'enterrement, il y a une période très particulière où on a le droit de faire certaines choses et pas d'autres.
Dès le décès, en effet, les amis seront là pour soutenir les membres de la famille, tant pour les tâches administratives et pratiques liées à l'organisation des funérailles que pour l'aider dans les tâches ménagères. Lors des funérailles, les familles, les amis, mais aussi bon nombre de membres de la communauté seront là pour entourer les proches à passer et leur permettre de passer ce moment difficile. Vous savez qu'on parle toujours du minyan dans le judaïsme. Le minyan est composé de 10 juifs qui nous montrent l'importance de la communauté et du groupe. Il n'y a pas d'ermite chez nous. Le juif ne vit pas seul. Il fait partie intégrante du groupe et il en a autant besoin que le groupe a besoin de lui. Dans des moments aussi difficiles que le deuil, il joue un rôle primordial. Il montre que la personne disparue comptait pour lui. Dire un petit mot à propos du défunt est toujours réconfortant pour les proches.
Alors, justement, s'agissant d'évoquer la mémoire de quelqu'un qui vient de mourir, y a-t-il une règle particulière à respecter ?
Il y a en tout cas une tradition, une pratique qui veut que quand quelqu'un est mort, on ne demande pas s'il a eu une belle et une bonne vie. On demande s'il a fait quelque chose pour que la vie de son enterrage soit meilleure, belle et bonne. Et c'est vraiment quelque chose que j'entends souvent lors des funérailles. Combien de familles et amis ne présentent-ils pas leurs chers disparus comme ayant été un ou une mensch ?
Que voulez-vous dire par mensch ?
Mensch, c'est un mot yiddish qui signifie une personne intègre ou d'intégrité. Un mensch, une mensch, c'est quelqu'un qui est responsable, qui a un sens du bien et du mal et est le genre de personne vers qui les gens se tournent. Quelqu'un qui a consacré sa vie à faire du bien autour de lui ou d'elle. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise, cette volonté d'essayer, chacun à notre mesure, de faire quelque chose de bien pour les autres. À ce propos, je rappelle cette règle selon laquelle, lorsqu'on fait le respect, l'éloge funèbre, on ne peut dire que du bien de la personne et jamais on ne parle de ce qu'elle aurait fait de mal. Une autre de nos caractéristiques sans doute. Ne regarder les choses que par leur côté positif.
Oui. Alors je suppose que la présence des proches ne se limite pas au seul jour des funérailles, bien entendu.
Évidemment. Ouais. Viennent ensuite ce qu'on appelle les shivas, ce qui veut dire sept, à savoir les sept jours de la semaine qui représentent la première période de deuil. Sachant que le jour de l'enterrement est le premier jour des shivas et que donc le soir, c'est déjà le deuxième jour qui commence. Le conjoint, les enfants, les frères et sœurs, ou si c'est un enfant qui est mort, les parents restent dans toute la mesure du possible à la maison. Les amis sont présents pour faire le repas ou le commander ou le présenter aux convives. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour être à leur côté. Tous les soirs, à la maison du défunt ou de l'un des membres de la famille ou encore à la synagogue, un petit office est prévu à la suite duquel on partage une collation et on parle du défunt.
Ça. Gaëlle, les psychologues disent que ceux qui pratiquent les shivas vont mieux, font mieux leur deuil ensuite.
Oui, c'est vrai pour tous ceux qui pratiquent des rites liés à la mort, même si dans leur vie profane, ils ne sont pas ou peu religieux. Mais le judaïsme semble plus subtil dans ce sens qu'il propose une réponse tant à la mort qu'à la vie.
Alors, les prières, que ce soit au cimetière ou lors des shivas, comportent toujours le kaddish que certains erronément appellent la prière des morts.
En effet, erronément. Le kaddish est une prière, en araméen, qu'on récite lors des enterrements, mais aussi à la fin de chaque office ou partie d'office. C'est plutôt la prière des vivants, une prière pour les vivants, un hymne à la vie. Quand on traduit le début du texte, on a « que le nom de l'Éternel soit exalté, sanctifié, en ce monde qu'il a créé selon sa volonté, qu'il établisse son règne, fasse germer son salut et approcher sa délivrance de nos jours et pour toute la maison d'Israël, bientôt et dans un temps prochain, et nous dirons « Amen ». On voit qu'il n'y a là aucune référence à la mort. Kaddish vient de la racine Kouf Dalet Shin, Kadosh, Saint, ou Kiddush, sanctification. Il s'agit d'une sanctification de l'Éternel, c'est-à-dire qu'on affirme l'acceptation de notre statut d'être humain mortel. Et malgré notre statut de mortel et de la situation tragique dans laquelle on se trouve, on affirme malgré tout qu'on a confiance en l'Éternel et donc en l'amélioration de l'être humain. C'est une affirmation que la vie a un sens.
Gaël, le kaddish est récité pendant un an.
En effet, on le récite un peu comme un mantra pendant un an, une sorte de méthode couée. Si on a été frappé par le désespoir pendant ce deuil, à force de célébrer la vie, on va quand même pouvoir reprendre vie. Dans le judaïsme libéral, on ne dit pas le kaddish pour l'âme du défunt afin d'alléger les fautes qu'il aurait pu commettre. C'est notre propre âme qu'on est en train de soigner pendant cette année-là.
On est très éloigné de la mort.
Oui, comme je viens de l'expliquer, le judaïsme est une pratique, une religion, un hymne à la vie, tout en sachant que la mort fait partie de la vie. C'est une des manières de donner du sens à la vie.
Alors, on va faire une nouvelle petite pause musicale en la compagnie de Hazan Hazi Schwartz.
Hashkiveinu Adonai Eloheinu Leshalom. Hashkiveinu Adonai Eloheinu Leshalom. Hashkiveinu Adonai Eloheinu Leshalom. Hashkiveinu Adonai Eloheinu Leshalom. Vehamideinu Malkeinu Lechaim Lechaim. Ufros Aleinu Sukkah. Hashkiveinu Adonai Eloheinu Leshalom. Hashkiveinu Adonai Eloheinu Leshalom. Ushmor tzeteinu uvoheinu lecha.
Alei nuve alcol amo Israel ve al Yerushalayim. Hashkiveinu Adonai Eloheinu leshalom. Hashkiveinu Adonai Eloheinu leshalom. Me'ata.
Gaël, par rapport à ce qui se fait chez d'autres à Gana Shalom, qui est le cimetière de la communauté israélite libérale de Belgique, synagogue Beth Hillel, on insiste beaucoup sur des funérailles très simples.
Oui, tout à fait. Ainsi, le cercueil est réalisé le plus simplement qui soit, des planches de pain, pas de décoration intérieure ou extérieure. Cela pour marquer l'égalité de tous, tant devant la mort que dans notre humanité.
Alors, justement, est-ce qu'il y a d'autres différences entre ce qui se fait chez nous et ce qui se fait ailleurs? Y a-t-il, par exemple, des pratiques liées au décès auxquelles nous ne nous plions pas?
Il y en a, mais c'est plutôt de l'ordre de la coutume, plus que quelque chose de fondamental. Couvrir les miroirs, enlever les coussins des fauteuils, bien d'autres rites vont être plus ou moins respectés selon les coutumes des uns et des autres. Mais si nous ne demandons pas à nos fidèles de les pratiquer, nous ne les interdisons pas non plus et nous respectons ceux qui les suivent, évidemment.
Et y a-t-il d'autres différences encore ?
D'aucuns diront que nous revenons toujours avec la même chose. Mais forcément, puisque nous ne faisons pas de différence entre les droits et devoirs des hommes et des femmes, nous sommes bien obligés de revenir avec ça chaque fois. Donc dans toutes les communautés libérales, les femmes comme les hommes disent le kaddish pour leurs proches. Nous n'avons en outre pas de règles qui interdiraient aux enfants de venir aux funérailles de leurs parents. C'est une question d'enfant, de maturité et de besoins évalués. Mais il n'y a aucune superstition autour de cela comme on le voit parfois ailleurs. D'ailleurs, pour l'Iskor, à Kippour, nous ne faisons pas sortir les enfants, pour autant qu'ils puissent rester calmes, comme c'est le cas dans d'autres communautés israélites.
Gaël, vous nous avez parlé tout à l'heure de la période de Shiva, mais la période de deuil, elle ne se limite pas à cette période-là.
Non, il y a une deuxième période, les Shloshim, comme le nom l'indique, qui dure 30 jours et qui sont marqués par des restrictions un peu moins nombreuses que durant les 7 premiers jours. Et enfin, une troisième période qui se termine après 12 mois.
C'est ça. De manière générale, concernant le deuil, le judaïsme libéral se montre-t-il coercitif ?
Le cœur du judaïsme libéral réside dans le fait que nous n'imposons rien. Tout est toujours une question personnelle. Nous expliquons les pratiques traditionnelles et nous guidons les endeuillés pour les mettre en œuvre. Mais nous n'imposons pas de pratiques dans lesquelles les gens ne se reconnaissent pas. Nous encourageons particulièrement les endeuillés à marquer les Shiva, donc à marquer les 7 jours de deuil, parce que ça leur permet de prendre du recul avec la vie courante pour vivre ce deuil. Et aussi, nous invitons les endeuillés à venir dire le Kaddish régulièrement durant l'année qui suit le décès de leurs proches. Revenir à la communauté, revenir à la vie.
Bien. Gaël, je vois que le temps passe vite et je vois que nous n'aurons malheureusement pas beaucoup de temps pour développer, comme nous l'aurions voulu, notre rubrique devenue habituelle consacrée à la lettre du jour. Néanmoins, pourriez-vous nous en dire tout de même quelques mots ?
Je vais essayer de faire court. Nous venons d'aborder cette question si difficile et sensible qu'est la fin de vie. Il m'a semblé que la lettre la plus adéquate était le Samer, 15e lettre de l'alphabet, qui justement suit les deux premières que nous avons vues, le Mem et le Noun. Le Samer est la lettre du secret, de l'intimité, ce qui est au plus profond. Et dans le cas qui nous occupe, comme dans tous les cas d'ailleurs, personne ne peut juger l'intime de l'intime de quiconque. Et personne ne peut savoir et encore moins dire ce qui est au plus profond d'une personne.
Alors, la forme de cette lettre, pourrait-elle une fois de plus, nous aider à comprendre son sens.
En effet, alors que notre alphabet est dit carré, notre lettre du jour est entièrement ronde. Or, le cercle joue un rôle central dans la pensée juive et en particulier dans la Kabbale. Le cercle ne présente ni commencement ni fin. Il évoque donc l'infini. Petit ou grand, il est toujours parfait. Ni haut ni bas, il n'évoque pas de hiérarchie. Nous voyons donc que le cercle exprime à la fois l'infini et l'égalité. L'espace clos de la lettre n'a pas échappé aux commentateurs. Elle est la seule lettre, en début ou milieu de mot, qui soit à ce point fermée. Elle est l'écrin du monde secret, la gardienne de ce qui doit rester caché. La racine, sa mère même kaf, signifie appuyer, s'appuyer, soutenir, reposer. Et le mot Samer signifie soutenir, restaurer. Dans le texte de la création du monde par les lettres, la lettre Samer nous donne sa fonction profonde. Maître des mondes, veuille créer par moi le monde, car un appui, Semira, est en moi pour ceux qui tombent. Le Samer est le soutien du monde, sans lui tout s'écroule. Pour terminer, je dirais que le Samer commence un des mots-clés de la tradition ésotérique juive, Sod. Le secret. Il est inconcevable par l'intelligence humaine. Il ne donne aucune prise à la rationalité humaine. En tant que cercle, il peut aussi symboliser l'unité. Cela peut être l'unité de l'âme avec Dieu. Et voilà une nouvelle raison pour vous en avoir parlé ce jour.
Merci Yaël. Nous allons à présent passer à l'agenda communautaire de la synagogue Beth Hillel. Ce vendredi 7 mars, comme chaque premier vendredi du mois, l'office de Kabbalat Shabbat familial Le Dor Vador débutera à 18h30. Le Shabbat 8 mars prochain, à l'issue de l'office, Rabbi Neger poursuivra le cercle d'exploration midrashique avec un nouveau cycle consacré à un temps pour mourir. Pour toute information et inscription, il suffit de téléphoner au 02 332 25 28. Le Shabbat 15 mars, comme tous les troisièmes samedis du mois, après l'office se tiendra le cercle d'études de la paracha de la semaine. Le samedi 16 mars, à 16h, ce sera la fête de Pourim à Beth Hillel, avec pour la plus grande joie de tous, un invité surprise et également un slam géant destiné aux adultes. La lecture de la Megillah aura lieu à 18h. Le mardi 18 mars, de 15 à 17h, réunion conviviale Café Clash des seniors. Comme tous les troisièmes mardis du mois, on y goûtera et discutera autour du thème du jour proposé et animé par Gaël. Enfin, pour clôturer l'agenda, notez également que le samedi 22 mars à 20h30, notre chazanite Raviv Weinberg donnera un concert organisé par Beth Hillel conjointement avec les Grandes Heures de la Cambre à Bruxelles, à l'abbaye de la Cambre. Merci à vous Gaël de nous avoir exposé les pratiques entourant le deuil et d'avoir porté un petit éclairage sur la lettre sa mère. Merci à vous, Rabbi Neger, pour avoir pris le temps de nous parler de la si difficile question de la fin de vie provoquée. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci à vous toutes et tous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pouvez l'écouter à nouveau en vous rendant sur le site www.bethillel.org dans l'onglet « Publications ». Au nom de toute l'équipe de la communauté israélite libérale de Belgique, synagogue Beth Hillel, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et vous dis à dans 15 jours.